Des gens partout ?
Bah parce que d'abord les humains sont les seuls qui sont enfermés.
Ouais.
Parce que si on regarde bien, bah finalement c'est nous qui avons des contraintes physiques. On a soit des barrières à gauche, soit des barrières à droite, soit on a de l'eau, soit on a de la végétation. Et en fait l'idée c'était d'enfermer, alors entre guillemets évidemment, les visiteurs, de les faire circuler sur des sentiers et de ne jamais rentrer en interaction avec ces oiseaux. C'est-à-dire qu'en fait on va tourner en rond plus ou moins autour d'eux, mais finalement c'est eux qui sont libres d'aller et venir autour de nous, et nous qui sommes contraints sur des sentiers qui sont bien balisés. En fait, le principe d'une bonne cohabitation, c'est de ne pas sortir de nos sentiers battus. Et donc, les oiseaux ont assimilé le fait que vous allez être proche, mais que vous n'allez pas les déranger. Et ce qu'a besoin de savoir un oiseau, c'est quelle va être sa distance de fuite.
Okay.
Et c'est pour ça que c'est très intéressant, parce qu'il y a des oiseaux qui sont bagués, on lira des bagues ensemble tout à l'heure, si vous voulez, avec des jumelles, là, qu'on observe ici à 4, 5, 10 mètres. Le lendemain, on va les observer sur un étang quelconque en Camargue. Dès qu'on commence à approcher au-delà des 100, 80 mètres, ils s'envolent. Parce qu'en fait, là-bas, ils ne savent pas jusqu'où on va. Alors qu'ici, ils savent très bien jusqu'où on va aller. Et en fait, c'est ça qui va...
C'est un apprentissage, en fait.
Ouais, c'est ça, tout à fait.
Ils savent qu'ici, il y a de l'humain, mais qu'ils ne vont pas leur faire de mal et qu'ils ne peuvent pas rentrer dans leur zone...
Ils ont assimilé ça, je suppose, hein, évidemment. Hein. Après, je ne suis pas à leur place, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut constater.
Alors, votre travail, il est celui-là, d'offrir ce spectacle accessible à tout le monde. Mais il y a aussi des missions plus scientifiques, plus écologiques. Quelles sont-elles ?
Alors, elles sont toujours très liées, hein, parce que les deux vont de pair pour moi. C'est toujours très important de les relier. En fait, ici, on va faire ce qu'on appelle des suivis. On suit, entre guillemets, une espèce... Sur un temps donné et plutôt sur du long terme. Donc notamment, on va faire un suivi sur la population de flamands. Alors le suivi, c'est quoi ? Bah, c'est de compter les individus, si pas tous les jours, en tout cas deux ou trois fois par semaine. Ensuite, c'est de lire les bagues. Mmh. Parce que les bagues, en fait, ce sont des données hyper importantes. Parce que là,
et les bagues, on peut les voir d'ici là.
On les voit à l'œil. On peut en voir à l'œil nu. Alors là, sur le groupe, j'en ai pas forcément tout au long de notre balade, on va en voir.
On va les lire.
Avec des jumelles ?
D'accord.
Sans problème. Ouais, ouais. Okay. Vous verrez, on va les lire. On les rentrera sur une base de données. Et ensuite, cette base de données, elle va nous donner la date de naissance de l'oiseau. Elle va nous donner son lieu d'origine. Et puis, elle va nous donner son parcours. Parce que chaque fois qu'il a été observé, ça a été noté. Et en fait, on peut suivre comme ça l'historique de vie d'un individu. Et ça va aussi nous donner des infos sur le comportement global de l'espèce. Et sans ça, en fait, on a zéro info. C'est-à-dire qu'on ne peut faire que des hypothèses. Donc, ce suivi, il est très important. On va aussi suivre au printemps les populations d'oiseaux nicheurs, donc les hérons, par exemple, qui ont déjà démarré.
On a quelques arbres. Là, on a une dizaine d'arbres qui sont remplis de nids de hérons.
Ouais, pour l'instant, les hérons cendrés. Puis petit à petit, d'autres espèces vont s'y greffer. Et on va avoir ce qu'on appelle des colonies de hérons arboricoles qui vont nicher à quelques mètres des sentiers. Donc, c'est génial parce que... On peut observer en fait tout le travail de ces hérons, c'est-à-dire construire un nid, consolider les liens du couple, ensuite couver, puis nourrir, puis protéger. Enfin, c'est génial de pouvoir assister à ces cycles-là. Et donc ça, on va le suivre, pareil, toutes les semaines, de façon à avoir une idée du nombre de couples nicheurs, de le taux de réussite. Combien de jeunes à l'envol, sur combien de pondus par exemple.
Sur plusieurs années, on peut voir du coup s'il y a une baisse de la fécondité, de la natalité, de la survie des oiseaux.
Ouais, ça nous permet de faire des parallèles et de pouvoir voir si justement la colonie est favorable, pas favorable. Et donc ça, on le fait sur toutes les colonies. Il y en a une là, mais il y en a une là-bas. On la voit juste à gauche, là-bas, vous voyez, ça commence à bien s'installer aussi. Et puis après, on va faire un autre suivi de population nicheur, c'est les oiseaux qui nichent sur les îlots, non pas dans les arbres, mais à même le sol. Donc tout ce qui va être goéland, sterne, mouette, avocette, qui sont des oiseaux coloniaux aussi et qui vont nicher ensemble. Donc ce suivi-là, il est important. On va donner toutes nos infos et tous nos chiffres, on va les donner à la station biologique de la Tour du Valat, qui va ensuite compiler ces données, puis travailler sur les résultats. Et nous, ensuite, notre travail, ça va être justement de synthétiser et de vulgariser ces données pour pouvoir justement expliquer au public à quoi ça sert, ce qu'il faut faire, et puis pour pouvoir raconter des histoires autour de ces oiseaux, parce que c'est ça qui est important.
On va faire une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu veux écouter ?
Ah, je sais pas, Radiohead.
Très bien.
Says the
Alors nous sommes de retour à Frédéric Lamouroux. Donc quel est ton poste ici au sein du parc ornithologique du Pont du Gau en Camargue?
Mon poste officiel c'est directeur. Après je me considère comme un membre de l'équipe on peut dire gestionnaire de l'espace. Ouais, c'est bien. Mais on est quand même une équipe de 13 permanents, de 17 au total en pleine saison. On est à peu près sur 200 000 visiteurs chaque année. Et ce qui est important dans l'équipe, c'est qu'en fait, on essaie de faire en sorte que tout le monde soit très polyvalent. On a une équipe d'animation qui est aussi capable de faire de l'accueil, de faire de la gestion, de faire de l'entretien. On a une équipe d'entretien qui est aussi capable d'intervenir sur l'aménagement des zones de nidification. On a des équipes qui vont être chargées de vérifier les niveaux d'eau chaque jour, puisqu'en fait, ça fait partie de notre travail quotidien. En fait, on vérifie les niveaux d'eau tous les jours, parce que ce qui est hyper important.
Et la qualité salée, trop salée, trop. Oui.
Alors, on vérifie en fait les taux de salinité pour voir s'il y a de l'évolution. Et c'est aussi intéressant, ça nous donne des chiffres aussi sur les années précédentes. Ça nous permet d'avoir une idée un petit peu de comment évolue la circulation de l'eau, sachant qu'ici on est quand même sur une alimentation qui est 100% eau douce, hein, puisque l'eau qui alimente les marais du parc, c'est l'eau du Rhône, hein, c'est l'eau du petit Rhône. Et elle est amenée par des canaux ou par des pompes lorsqu'on n'en a pas assez ou ça ne va pas assez vite. Et en fait, chaque matin, on va vérifier si les niveaux correspondent à l'actualité. Alors pourquoi l'actualité? C'est parce que en fait, y a à peu près 400 espèces d'oiseaux en Camargue, mais ces oiseaux ne sont pas tout le temps là, au même moment, ensemble. Donc en fait, il va y avoir des arrivées, des départs, il va y avoir ce qu'on appelle des passages migratoires. Là, on va rentrer en plein dans le passage migratoire. On est fin février, début mars. On va vraiment attaquer le parcours migratoire. Donc beaucoup d'oiseaux qui ont passé l'hiver dans le sud, soit sur les pays du Maghreb, soit sur l'Afrique carrément, vont repasser par la Camargue pour faire une étape. Alors moi, j'appelle la Camargue, j'aime bien l'appeler station-service ou aire d'autoroute, parce qu'en fait, c'est une zone qui va accueillir énormément d'oiseaux lors du passage. Ça va leur permettre de faire le plein d'emmagasiner des graisses qui vont leur permettre de continuer leur voyage. La qualité de la Camargue et la qualité de la zone humide camarguaise, elle est hyper importante pour ces oiseaux sur ces périodes-là. Donc notamment les niveaux d'eau, puisque chaque famille d'oiseaux va avoir besoin de niveaux d'eau bien différents. Donc,
c'est-à-dire les niveaux d'eau, de hauteur d'eau?
Oui, de hauteur d'eau, profondeur d'eau. D'accord. En fait, on va avoir beaucoup d'oiseaux qui vont arriver là, qui font partie de la famille des limicoles. Alors les limicoles, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits échassiers. C'est tout ce qui vont être bécasso, bécassine, chevalier, barge, toutes ces espèces-là qui sont des petits échassiers qui aiment bien aller fouiller la vase.
Donc eux, il leur faut un petit niveau d'eau avec la vase juste en dessous.
Exactement. Et donc on va faire en sorte que pendant le temps de passage de ces oiseaux-là, donc qui va quand même durer quasiment 2 mois, on puisse leur fournir les meilleures conditions d'accès possibles. On a encore beaucoup d'oiseaux hivernants, notamment beaucoup de canards qui sont venus passer l'hiver ici, qui sont déjà en train de repartir. Et puis dans les semaines qui suivent, on va commencer à baisser ces niveaux d'eau pour avoir des vasières en fait. Si on était sur un fonctionnement naturel sur toute la Camargue, on n'aurait pas forcément à se poser ce genre de questions. Or, on n'est pas du tout sur un système naturel puisque la Camargue a été endiguée dans les années 1860-1880, donc on est sur un fonctionnement qui est totalement artificialisé, avec des digues, avec des stations hydrauliques, avec des stations de pompage. Et en fait, on fait circuler de l'eau sur des canaux et cette eau, elle va alimenter absolument toutes les activités de Camargue, c'est-à-dire des riziculteurs, des éleveurs, des chasseurs, des pêcheurs et des protecteurs de la nature. Et en fait, on a le même cycle d'eau que nos voisins chasseurs ou nos voisins agriculteurs. Pareil, on va tous pomper de l'eau et on va remplir ou vider nos espaces. Et donc en fait, on va jouer là-dessus parce que les oiseaux ne vont pas trouver des conditions optimales partout.
Non, et ce qui est intéressant, c'est en fait, c'est finalement aussi l'homme qui donne, qui crée la richesse du milieu. C'est-à-dire, est-ce que le milieu serait aussi riche si on le laissait complètement à la nature, s'il avait été laissé à la nature?
En fait, dans la configuration de la Camargue telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire totalement endiguée, non. On pourrait l'être si on avait une Camargue qui n'était pas endiguée. Et si on revenait globalement à une Camargue qui est la Camargue d'avant 1860. Mais ça, c'est pas possible. Hein, c'est aujourd'hui totalement irréalisable. Donc aujourd'hui,
pourquoi?
Parce que en fait, l'activité humaine a pris le pas. Et donc on peut difficilement laisser le Rhône divaguer, on peut difficilement laisser le Rhône inonder des terres.
Et les maisons,
et les habitations, et les activités humaines, c'est compliqué de revenir en arrière. C'est compliqué, c'est pas souhaitable d'ailleurs. Donc en fait, on compose avec ça. Ici à Pont de Gau, je ne parle pas d'espace naturel. Pour moi, c'est un espace protégé. Il n'y a pas ou plus d'espace naturel en Camargue. Puisque tous.
Mais je vous assure, le rendu est quand même très très naturel. Hein. Non, vous n'imaginez pas quelque chose de.
Non, mais c'est le but du jeu. Mais c'est vrai que moi, ça me tient à cœur que le fonctionnement global de la Camargue soit revienne quand même dans ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un fonctionnement dans lequel on va ouvrir des martelières, faire rentrer de l'eau ou faire sortir de l'eau, dans lequel on va composer avec ça. Et donc après, bah, c'est, chaque activité va utiliser l'eau en fonction de ses besoins et de ses époques. C'est-à-dire qu'un bah, riziculteur n'aura pas le même fonctionnement que nous ici, un éleveur non plus, etc. etc. Mais globalement...
Tout ça se coordonne bien ?
Plus ou moins, c'est pas toujours simple sur le territoire, il y a des petites querelles de voisinage, mais globalement, je pense qu'il est important en Camargue, c'est que on est sur une terre de passionnés. C'est-à-dire que je pense que si vous allez parler à un agriculteur, un éleveur de taureaux, de chevaux, vous allez avoir quand même des gens qui sont extrêmement passionnés par ce qu'ils font, qui ont un lien très fort avec leur territoire.
Et toi, alors, qu'est-ce que tu défends en particulier ?
La Camargue telle qu'elle est faite actuellement, elle est plutôt pas mal, elle fonctionne plutôt pas mal. Il faut bien se rendre à l'évidence qu'on a pratiquement une trentaine de kilomètres de sentiers dans des espaces protégés divers et variés. Donc aujourd'hui, n'importe quel touriste qui veut faire du sentier nature, qui veut aller balader dans des espaces protégés, il a quand même plus de 30 kilomètres à sa disposition, ce qui est quand même pas rien. Donc on a beau clamer que la Camargue n'est pas ouverte, qu'il y a des barbelés partout, qu'il y a des sens interdits, qu'il y a des terrains privés, ben oui, mais c'est comme ça. Par contre, il y a plus de 30 kilomètres de sentiers pédestres ouverts au public, c'est énorme. Donc déjà, faisons déjà ces sentiers-là.
Et puis des zones entières très ouvertes, comme la réserve, comme ici.
Alors ce sont des zones qui sont à la fois très ouvertes, mais quand même relativement très balisées.
Pour la nature.
Exactement. En fait, l'idée, c'est quand même de permettre à l'humain de rentrer dans le monde de la nature, mais de rentrer sur la pointe des pieds et de ne pas déranger, d'enlever ses chaussures, de ne pas faire de bruit, en gros, de ne pas venir déranger. Il ne faut pas perdre de vue qu'on est ici, on est chez les oiseaux. On est dans la nature, donc on est chez elle, et c'est à nous d'être le plus vigilant possible. Ben, la Camargue, c'est une zone endiguée, c'est une zone dans laquelle il y a des activités humaines, c'est une zone dans laquelle on ne peut pas aller partout parce qu'il y a de l'élevage. Hein, il y a des gens qui élèvent des taureaux, qui élèvent des chevaux, qui élèvent des moutons. Il n'est pas question d'aller dans ces territoires-là. Il n'est pas question d'aller piétiner une rizière. Il n'est pas question d'aller piétiner une zone d'élevage. Et je pense que ça, c'est hyper important, comme il n'est pas question non plus d'aller piétiner une zone de nidification des oiseaux.
Il y a des règles et il faut s'habituer à son milieu, au milieu dans lequel on arrive.
Ouais,
de la même manière que des gens qui viennent dans votre rue ne rentrent pas chez vous pour voir parce que votre jardin est joli.
C'est exactement ça. Et en fait, moi, souvent, j'entends cette remarque de visiteurs qui nous disent « Ah ouais, mais on ne peut pas aller partout. Il y a des chemins qui sont barrés, il y a des barbelés partout. » Bah oui, bah c'est comme ça, c'est la Camargue. La problématique aussi, c'est qu'on a vendu pendant très, très, très longtemps l'image d'une Camargue totalement sauvage où vous avez des bandes de chevaux qui fréquentent des flamands, qui passent par des taureaux et dans lesquels vous avez accès partout. Bah non, c'est pas la réalité. Et il faut impérativement remettre ça bien en place. Donc ça, ce qui me tient à cœur, c'est ça. Je pense que la Camargue, elle est largement déjà assez ouverte. Je pense que c'est déjà pas mal. Très franchement,
c'est un bon compromis, il en faut pour tout le monde.
Ouais, et puis
ouais, très bien.
Très franchement, on a de quoi découvrir la Camargue largement, que ce soit à pied, à cheval, en vélo, en véhicule. Enfin, il y a vraiment de quoi la faire. Il faut juste se donner la peine. Il y a plein de petites routes secondaires aussi en Camargue qui sont fabuleuses. Il faut juste les faire. Alors, on peut les faire en voiture, mais on peut les faire aussi en vélo. Et en fait, il y a plein de moyens de découvrir la Camargue en sortant un tout petit peu des sentiers battus, tout en allant dans les espaces protégés, parce que ces espaces protégés, bah, ils vous donnent, c'est un petit peu ce que vous disiez au début de l'émission, c'est qu'ils vous donnent accès en fait à une Camargue qu'on a, sur lesquelles on ne peut pas aller forcément partout. Voilà.
Le parcours Ornitho, on a commencé à le dire, a une mission scientifique, ce bagage, ce comptage, cette étude des oiseaux, mais vous en avez d'autres, vous avez aussi un centre de soins, je crois.
Oui, alors ça c'est un peu une mission en parallèle. En fait, mon père avait ouvert dans les années 70 un centre de sauvegarde parce que bah, les gens lui amenaient les oiseaux blessés tout le temps. Et puis bon, ça a évolué gentiment pour être très structuré à partir de 2009-2010. Et là, aujourd'hui, on a un centre de sauvegarde qui est associatif, qui est complètement scindé du parc. En fait, ce sont deux organismes très différents qui travaillent main dans la main et qui travaillent de concert, mais ce sont vraiment deux organismes très différents dont les missions ne sont pas les mêmes. Hein. La mission d'un centre de sauvegarde, bah, c'est de sauver les oiseaux blessés.
Donc, de la faune sauvage. Et de les relâcher quand il peut.
Et de les relâcher. Alors là, de toute façon, l'issue est très simple. Hein. Lorsqu'un oiseau blessé arrive au centre de sauvegarde, quel que soit le centre de sauvegarde en France, il y a deux options possibles. Hein. Il y a soit l'oiseau est sauvable et à ce moment-là, on va entamer des soins et dans l'idée de le relâcher, soit malheureusement ses blessures sont trop graves et on n'a pas d'issue favorable, et donc à ce moment-là l'oiseau sera piqué. Et donc en fait on va être dans, sur ces deux options-là. Mais le centre de sauvegarde ici, alors si mes souvenirs sont bons, c'est à peu près entre 600 et 700 oiseaux blessés chaque année, avec un taux de lâcher qui est autour des 50%.
Qu'est-ce que tu as eu ? Tu as une petite cinquantaine d'années, pas tout à fait.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce que tu as vu changer ?
Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a eu énormément de changements de population d'oiseaux en Camargue. En 25 ans, depuis le début des années 2000, on a des espèces qui ne viennent plus.
Comme ?
Bah, les canards plongeurs, par exemple, comme le filigule milouin ou le filigule morillon.
Pourquoi ? Parce qu'il a plus à manger ici ?
Bah, il a mieux ailleurs. En fait, c'est très simple, hein. Les oiseaux sont pour la plupart très opportunistes et vont tous aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? C'est la nourriture. Et en fait, lorsqu'un oiseau va migrer ou va se déplacer, ce qui va motiver son déplacement, c'est la recherche des conditions optimales d'alimentation. Okay. Et donc les milouins et les morillons qui fréquentaient la Camargue dans les années 60, 70, 80, 90, au nombre d'à peu près 10-15 000 individus chaque hiver, ce sont des oiseaux qui n'étaient là que l'hiver, hein, venaient s'alimenter dans les étangs et ils allaient chercher de la nourriture en profondeur. Et puis petit à petit, avec le réchauffement climatique, on a des zones qui sont devenues très favorables au nord, notamment en Savoie, en Suisse, en Allemagne aussi. Et donc ces oiseaux ne descendent plus jusqu'en Camargue. Parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de venir là, puisque la nourriture est disponible ailleurs. Et puis, par contre, on a d'autres espèces qui ont fait leur apparition au début des années 2000. Donc, notamment la cigogne blanche, l'ibis falcinelle, qui est un ibis, on en verra tout au long de la balade. Hein,
qui, elle, n'a pas besoin de remonter au nord.
Alors,
je
vais y venir, c'est un peu plus complexe. Et la spatule blanche aussi, par exemple, qui sont des oiseaux qui ont fait leur apparition de manière assez importante au début des années 2000. Et aujourd'hui, on a des individus qui nichent en Camargue, ce qui n'était pas le cas dans les années 90. Quand on a commencé à les fouiller et chercher un petit peu, on s'est rendu compte que la grosse part d'alimentation de ces oiseaux-là, en fait, c'était l'écrevisse de Louisiane. Donc, qui est une espèce invasive, oui, qui envahit tous les cours d'eau, les étangs, les marais et les rivières en France, c'est issu de l'élevage, hein, malheureusement. Oui, et donc, en fait, cette écrevisse, finalement, elle fait le bonheur de la cigogne, de l'ibis, de la spatule, mais aussi de tous les hérons qui fréquentent la Camargue. Et en fait, ces oiseaux-là ont pu s'installer en Camargue pour nicher grâce à cet apport de nourriture. Donc en fait, la nature...
Ce n'est pas une bonne nouvelle, hein, parce qu'il déséquilibre complètement l'écosystème, il laisse plus de place aux écrevisses locales, enfin voilà.
C'est ça, il induit des nouvelles bactéries, de nouvelles maladies, donc c'est vraiment une grosse problématique. Mais finalement, la nature a horreur du vide, et donc de nouveaux prédateurs ont fait leur apparition et se sont attaqués à ce problème-là. Alors ça ne va pas réguler la population entière, mais ça induit quand même du stress, puisque lorsqu'il y a de la prédation, il y a du stress, et donc ça permet de maintenir la population, de ne pas la laisser se développer. Et ça a permis d'avoir l'apparition donc, de ces ibis, de ces spatules, de ces cigognes, qui n'étaient pas là auparavant. Et ça, ce n'est pas vraiment un changement climatique, on est plutôt sur un changement global.
Ça reste le dérèglement par l'homme, mais il n'est pas climatique.
Exactement, tout à fait, c'est ça. Mais en même temps, voilà, ça fait partie des changements qu'on a pu observer en Camargue. Et c'est quand même fabuleux aussi de voir ces myriades d'ibis. On est à pratiquement à 3000 couples hein, chaque année maintenant, ce qui est dingue, et qui se baladent là. Et là, ils sont en train de venir pour prospecter. Ça niche en général sur les îlots avec les hérons. J'espère qu'on en verra un petit peu tout au long de la balade. Et ça, c'est un régal pour les yeux, quoi.
Alors, on l'a vu avec la réserve, la salinisation ici aussi sur cette partie-là. Tu as cette salinisation ou pas ?
Non, pas vraiment, parce qu'on a un fonctionnement qui est extrêmement artificialisé au niveau de l'eau. Donc, globalement, on met en place des pompes et donc on a une gestion ici qui va être plus interventionniste que celle de la réserve, qui a une gestion qui est moins interventionniste. Après,
ils ont commencé, ils m'ont dit, à faire entrer de l'eau douce.
Mais pendant très longtemps, ce n'était pas le cas. Et donc, en fait, ce sont des choix de plans de gestion, d'orientation. Et c'est bien justement qu'il y ait des sites qui soient interventionnistes et d'autres pas. Donc c'est ce qui permet d'avoir de
chacun à sa place. Ouais. Ça s'appelle la complémentarité.
Exactement. Et ça, c'est très bien. Et ça montre aussi qu'on arrive tous à travailler en bonne harmonie avec nos collègues. Là, on a un oiseau, un individu qui est bagué, un flamand qui est bagué. Donc sa bague, c'est CHJT. Donc c'est 4 lettres. Ouais. Donc ça, c'est un bagage qui a été fait en Camargue. A priori, alors j'ai pas la base de données sous les yeux, mais je pense qu'on est dans les années 90. Donc c'est un flamand qui a quand même maintenant quasiment une trentaine d'années, hein, facile. les Flamands en fait ont une longévité assez forte, puisque on a démarré ce programme de bagages en 1977. C'est un des plus vieux programmes de suivi au monde, donc c'est hyper intéressant parce qu'on a une base de données sur le flamand qui est...
Ici, vous particulièrement, ou l'ensemble des observateurs de la Camargue ?
Tout à fait, absolument. Là, je parle toujours de l'ensemble de la Camargue. Et la personne qui avait mis ce bagage en place s'appelle Alan Johnson. Et donc, c'était le chercheur qui était chargé en fait de travailler sur les flamands. Et c'est lui qui a sauvé les flamands en Camargue dans les années 60. Donc,
ils étaient en péril ?
Ouais, ils étaient très menacés puisqu'ils n'arrivaient plus à nicher. En fait, là, il y avait une érosion très forte des îlots. Il y avait un tourisme ouvert, puisqu'il n'y avait pas de normes de protection. Et en fait, on a retrouvé quand même des images de gens qui se baladent au milieu de la colonie de flamands, qui prennent un œuf dans les mains, qui posent au milieu de poussins. Il n'y a pas de malveillance là-dedans. Je pense que c'est plus de la méconnaissance. Et donc, il était important de délimiter des zones où le public ne pouvait pas accéder, ce qui a permis aux Flamands d'abord de nicher à nouveau avec succès. Mais surtout, il a fallu vraiment travailler sur des îlots artificiels, gérer le niveau d'eau artificiellement pour que l'îlot soit toujours entouré d'eau. Et ça a permis aux Flamands de repartir dans les années, au milieu des années 70. D'accord. Et donc, il a été décidé de les observer, de les suivre, de les étudier, puisque ne pas faire ça pour rien, c'était quand même important. Et donc, à partir de 77, on a mis en place un bagage annuel qui permet de baguer entre 400 et 600 individus chaque année, et ce qui permet de les suivre tout au long de leur vie.
Et on n'en retrouve plus là quand même, qui ont 50 ans.
Alors si.
Ah ouais ?
Ouais, il y a encore quelques individus qui ont donc cette année 49 ans, ouais, on est d'accord, et qui ont encore niché en 2025 avec succès.
D'accord.
Donc c'est hyper intéressant, wow, parce que finalement... Et finalement, chaque année, on apprend des choses sur le flamand. La majeure partie des gens qui viennent en Camargue pour voir des oiseaux viennent voir des flamands. Et le flamand, c'est pas seulement un oiseau symbole, c'est aussi un oiseau sur lequel on a plein d'histoires à raconter. Sa survie a dépendu de la Camargue, et donc du travail des chercheurs et des protecteurs de la nature et des salins, puisque les salins ont permis à l'époque d'isoler un marais et d'isoler un étang pour pouvoir construire un îlot. Donc il a été très important que tout le monde se rassemble dans les années 70 pour sauvegarder cette espèce qui ne nichait plus qu'en Camargue en Europe. Donc c'était hyper important de pouvoir la sauver. Et donc c'est pour ça que son histoire, elle est très liée à la Camargue. Et aujourd'hui, c'est une espèce sur lesquelles on apprend encore des choses tous les jours, mais qu'on commence à bien connaître. On s'est rendu compte, par exemple, que lors des danses amoureuses, comme on peut avoir là-bas, on a des niveaux de danse qui ne sont pas les mêmes en fonction des âges. Donc des individus de 10 ans ne dansent pas comme ceux de 20 ans, qui ne dansent pas comme ceux de 30 ans. Et on a pu aussi se rendre compte, grâce au bagage, que, par exemple, les couples étaient formés par mimétisme. C'est-à-dire qu'une femelle va choisir un mâle ce mâle danse comme elle et vice-versa. Et donc, forcément, on est dans des tranches d'âge qui sont à peu près identiques et similaires. Et ça, on ne le savait pas il y a 10 ans.
Ouais. Incroyable. Et dans la transmission, la sensibilisation, vous axez sur quoi vis-à-vis du public ?
L'idée, c'est de faire en sorte que tout soit ludique, facile. Et on essaie toujours de faire comprendre l'intérêt de protéger, alors les oiseaux évidemment, mais surtout les espaces et les habitats. C'est-à-dire, si on ne protège pas la Camargue, si on ne protège pas les zones humides, on ne protégera pas les oiseaux. Donc on va toujours essayer de faire comprendre le lien qu'il y a entre les oiseaux et leur habitat. Et ça, c'est primordial en fait. Quand on comprend ça, on va avoir un rapport à l'habitat, un rapport à la nature qui ne sera pas le même. Et bien nous, notre métier, c'est ça. C'est de faire en sorte que quand on sorte du parc, on ait une notion de compréhension en fait, de comment les choses se passent en fait, globalement.
Ben merci, super. Frédéric Lamouroux, on rappelle le parc ornithologique du Pont de Gau, ici au Sainte-Marie-de-la-Mer, idéal pour découvrir la nature facilement, en famille, avec un handicap. C'est ça qui est extraordinaire. Merci beaucoup.
Ben merci à vous.
L'ours et la carotte est écoutable sur Internet. À la semaine prochaine.
HDR.
Filling the buckets overflowing with self-pity. What was I to ponder why? Reasons are led hand in hand by the smoke of her cigarette, imparting ways like strokes in her hair, gentle against.
again. Late. Homie got a vendetta but never get it together. Your best friend is sane. I'm looking at life in a different light. I'm a beast in disguise. I'm waking up this morning, I got crust in my eyes. Funny how the money make a nigga go blind.
Le mix de toutes les cultures, c'est sur le 99.
Le mix.
Flash spécial.
La construction, un secteur qui recrute en Normandie.
Envie d'un métier qui compte ? La construction, c'est avec vous et pour vous. C'est plus de 30 métiers dans le bâtiment et les travaux publics. Utiles, concrets, innovants. Des métiers pour tous. Et pour s'y former, rien de mieux que l'apprentissage. Alors, prêt à passer à l'action ? Il y a forcément un centre de formation près de chez vous. Rendez-vous sur laconstruction.fr.
La construction, la vivre, c'est encore mieux.
Kumikata Station, c'est votre émission reggae, un mardi sur deux de 18h à 20h.
Sur la radio HDR.
Deux heures de reggae sur vinyle, des infos du mouvement Sound System, des invités.
C'est Kumikata Station.
Animé par Liviti, un mardi sur deux sur le 99.fm. En live sur le Facebook de la radio HDR, page Facebook Kumikata Station. Alors n'oubliez pas, un mardi sur deux, c'est Kumikata Station de 18h à 20h sur Mix des Cultures.
Un instant, mesdames et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire.
Ça y est, je capte un signal.
Écoutez.
Et tous les dimanches, dès 22h, voyagez dans le spectre sonore du solénoïde. Qu'est-ce qu'il dit là ? De quoi il parle ?
Ah ben ça, je sais pas.
En l'espace de 60 minutes, solénoïde vous fera traverser des paysages sonores insolites.
Qu'est-ce que tu vois ?
Solénoïde, et tous les dimanches, dès 22h.
Qu'y a-t-il pour votre service ?
Ici Londres, votre émission un mercredi sur deux, de 17h à 18h. Venez découvrir les portraits des associations, leur histoire, leur mission, leurs projets et leurs actus. Ici Londres, un mercredi sur deux.
À quelle heure, dites-vous ?
De 17h à 18h. C'est sur le 99.1 FM. HDR.
Soul Connection, la black music des années 60 et 70. Deux heures de plaisir toutes les semaines à déguster en trois étapes. En entrée, 60s et 70s soul classics, soul, disco, funk, en oldies comme plat principal. Et pour le dessert, dance floor soul connection, disco, funk classique.